OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On est rendu ce soir à commencer les évangiles. On commence par l'évangile de Matthieu. Alors, dans notre étude de l'évangile selon Matthieu, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan, donc l'auteur, les destinataires, la date de composition, le contenu de l'évangile de Matthieu, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, les plans du livre et quelques observations. Alors, l'arrière-plan du livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu a exercé une profonde influence sur la pensée chrétienne. Il fut le plus cité dans la littérature antique. Pendant de nombreux siècles, presque toutes les lectures dominicales y étaient puisées. C'est aussi lui que l'on utilisait pour l'enseignement catéchétique à cause de sa disposition systématique de l'enseignement de Christ. Sa place à l'entrée du Nouveau Testament se justifie par les nombreux rappels des promesses de l'Ancien Testament accomplies maintenant en Christ. Plus que tout autre évangile, il met l'emphase sur la relation de Jésus avec les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament. Il est en quelque sorte un pont entre les deux testaments. Alors, bien entendu, l'auteur, comme tous les évangiles, cet écrit est anonyme, mais la tradition ancienne, remontant jusqu'au début du IIe siècle, l'attribue à Matthieu, le collecteur d'impôts, appelé par Jésus, et figurant dans les différentes listes d'apôtres. Aussi, à partir du IIe siècle, l'Évangile portait son nom dans le titre même. Maintenant, les destinataires du livre. Matthieu publia l'Évangile chez les Juifs. Irénée, disciple de Polycarpe, le compagnon de Jean, qui écrit ça. Alors, différents faits prouvent que l'auteur destinait son Évangile en premier lieu à des Juifs convertis. Pourtant, il n'oublie pas que l'Évangile a une portée universelle. L'inclusion de deux païennes dans la généalogie de Jésus, la visite des mages, l'avertissement donné par Jésus aux Juifs et l'annonce que les païens croiront en lui. L'ordre de mission, enjoignant aux disciples d'évangéliser toutes les nations, en sont des preuves manifestes. Selon les témoignages de plusieurs pères de l'Église, Matthieu a rédigé son évangile pour les croyants palestiniens issus du judaïsme. La date de composition, on croit que c'est approximativement entre l'an 58 et l'an 68 après Jésus-Christ. Deuxième idée qu'on va regarder, c'est le contenu du livre de Matthieu. Matthieu est facile à diviser. Il se composa en effet de cinq groupes de discours, chacun terminé par une formule comme celle-ci, après que Jésus eut achevé ses discours. Chaque groupe est précédé d'une partie narrative, si bien que l'on peut considérer l'ensemble de cet évangile comme une suite de cinq séries de récits suivies de discours. L'ouvrage débute par une introduction, chapitres 1 et 2, constitués par la généalogie et le récit de la nativité, et se termine par les récits de la Passion et de la Résurrection, les chapitres 26 à 28. On a expliqué cette division par la disposition en cinq parties de la loi dans l'Ancien Testament. Certains théologiens trouve que la suite des événements correspond chronologiquement aux saisons liturgiques juives. Nous pourrions donner aux cinq discours les titres suivants. Chapitre 5 à 7, la loi du royaume. Chapitre 10, verset 5 à 42, la prédication du royaume. Chapitre 13, verset 3 à 52, la croissance du royaume. Et chapitre 18, verset 3, 35, la communion du royaume. et les chapitres 24 et 25, la perfection du royaume. Alors on voit que le thème commun, c'est vraiment le royaume. Le thème principal commun aux cinq discours est le royaume de Dieu, ou selon le terme que Matthieu préfère, le royaume des cieux. Alors on a ici le mot en araméen, conservant littéralement l'expression araméenne probablement utilisée par le Seigneur lui-même. Le royaume est sans aucun doute le sujet distinctif de Matthieu, et dans tout l'Évangile, Jésus est surtout présenté comme le roi messianique. L'intention de l'évangéliste est de décrire Jésus comme le roi messianique dont la vie accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et dont l'arrivée dans un pays où régnait déjà un roi des Juifs provoque une crise dont une action divine préserve le roi nouveau-né pour le conduire à Nazareth. Le récit de la nativité est suivi par une description du ministère de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus. Nous y voyons Jean représenté comme le héros du royaume. Les paroles qui résument la prédication de Jésus et de ses disciples, Matthieu les attribue également à Jean. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le récit de la tentation, au chapitre 4, versets 1 à 16, est suivi d'un bref aperçu du ministère en Galilée, considéré comme l'accomplissement de l'oracle que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2. Ce résumé commence par les mots « dès ce moment », marquant un nouveau point de départ dans le récit. Le cas est le même dans chapitre 16, verset 21. Après la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Ce résumé sert d'introduction au sermon sur la montagne, présenté par Matthieu comme une nouvelle Torah, dont le sens primitif est instruction. Christ est venu pour accomplir la loi de l'Ancien Testament, mais son enseignement ne ressemble pas à la casuistique des rabbins. Il fait ressortir le principe fondamental des commandements de l'Ancien Testament et l'applique non seulement aux actes extérieurs, mais aux pensées et aux intentions du cœur, aux sources intimes du comportement de l'homme. Avec sa souveraine autorité, il proclame que la prospérité ou la ruine de l'homme dépend de la réponse qu'il fera à son enseignement. Les deux chapitres suivants, 8 et 9, rapportent surtout différentes guérisons et montrent le roi exerçant son autorité souveraine en chassant les maladies, les démons et même la mort. Cette activité guérissante est une nouvelle manifestation de la présence du céleste royaume et l'évangéliste y trouve l'accomplissement de la description faite par l'Ancien Testament du serviteur de l'Éternel qui a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. En outre, parmi ces incidents, on trouve sa réponse à ceux qui prétendaient vouloir le suivre, la tempête apaisée et l'appel de Matthieu avec les discussions qui en découlent. Là encore, le roi messianique se révèle. Le second discours, la mission des douze, débute par un bref compte-rendu de la délégation de pouvoir faite aux apôtres dont les noms sont donnés. Le discours rapporté là présente des caractères nettement primitifs. La promesse « Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu » montre par sa difficulté même qu'elle est très ancienne. Elle n'a certainement pas été inventée par un auteur après la chute de Jérusalem, et elle doit être prise à la lettre comme une mission confiée par Jésus à ses apôtres qu'il devait accomplir pendant sa vie terrestre. Sa portée restreinte forme un contraste significatif avec la mission donnée après la résurrection. Quant au passage, chapitre 10, verset 23, nous pouvons considérer avec celui de 16-28, comme accompli lors de l'établissement de son Église par le Seigneur ressuscité. La partie suivante, chapitres 11 et 12, est un récit commençant par la réponse du Seigneur à la question de Jean-Baptiste et continuant par la description de son attitude envers ceux qui rejettent ses exigences. Ceci nous conduit au troisième groupe de discours composé de paraboles où sont développés les mystères du royaume des cieux qui, après des débuts modestes et cachés, se montre soudain dans sa plénitude et dans sa puissance. Le récit suivant, chapitre 13, verset 53 jusqu'au chapitre 17, verset 27, est très proche de Marc 6, 14 et de Marc 9, 32, avec quelques développements ici et là, surtout dans l'histoire de la confession de Pierre à Césarée de Philippe, où seul Matthieu rapporte les paroles du Christ à Pierre. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas », contenant la première mention de l'Église faite dans le Nouveau Testament. La seconde mention se trouve dans Matthieu 18-17, et ce sont les deux seuls passages où nous trouvons le mot « ecclésia » dans les Évangiles. Cette partie narrative s'achève sur l'histoire de la pièce de monnaie trouvée dans la bouche du poisson, raconté par Matthieu seul. L'attitude du maître envers les impôts devait servir d'exemple lorsque cette question pratique se posa à l'Église de Jérusalem à ses débuts. Le discours du chapitre 18 traite de divers aspects de la communion fraternelle dans le royaume. Il expose d'abord la nature de la vraie grandeur et continue par le respect qu'il faut accorder aux enfants. Le règlement des disputes privées, dans le cadre de la nouvelle communauté et l'obligation générale de pardonner sans limite si l'on a expérimenté le pardon de Dieu. Viennent ensuite des récits qui vont de chapitre 19, verset 1 jusqu'au chapitre 22, verset 46, avec en plus la discussion sur le mariage et le divorce, la parabole des ouvriers de la 11e heure, et la citation du prophète de la prophétie de Zacharie 9:9 à l'occasion de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Matthieu se conforme à cette prophétie jusque dans les détails de son récit. S'y ajoute encore aussi la parabole des deux fils, celle du festin des noces, avec en appendice l'incident de l'homme qui ne possède pas de robe de cérémonie. Le chapitre 23 recueille les reproches du Seigneur contre le formalisme juif de son temps et s'achève par les malheurs prononcés sur Jérusalem par Jésus en qualité de sagesse divine, comme nous l'apprend un passage parallèle de Luc, chapitre 11, verset 49. Les discours eschatologiques du chapitre 24, parallèle à Marc 13, est complété par les paraboles du chapitre 25, les dix vierges, les talents et le jugement des nations. Le récit de la Passion, de Matthieu 26, 1 à 27, 66, suit de près le récit de Marc, mais y ajoute le repentir et le suicide de Judas, le rêve de la femme de Pilate, le geste du procurateur qui se lave les mains, la résurrection de nombreux saints d'entre les morts après la mort de Christ et la garde militaire du sépulcre. Le récit de la résurrection dans Matthieu est le seul qui parle du tremblement de terre, de l'ange assis sur la pierre, de la fuite et de la corruption de la garde. Il s'achève sur le rendez-vous fixé par le Seigneur à ses disciples sur une certaine montagne de Galilée. Là, ils reçurent de lui la mission de prêcher, de baptiser dans le monde entier, en même temps que la promesse de sa présence à leur côté tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le troisième point, c'est le but principal du livre de Matthieu. Les Juifs du premier siècle se posaient avant tout la question: Jésus était-il le Messie promis par les Écritures? Matthieu le leur démontre par de nombreuses citations-preuves, 9 de plus que dans les autres évangiles. Pour lui, l'histoire du peuple de Dieu de l'Ancien Testament se trouve récapitulée dans certains aspects de la vie de Jésus. Son but est donc le même que celui de tout évangéliste, amener les lecteurs à croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que par cette foi, ils accèdent à la vie. On estime qu'en Palestine et en Syrie, plusieurs dizaines de milliers de Juifs se sont convertis au christianisme entre les années 30 et 50. Beaucoup d'entre eux ont dû être troublés par les persécutions tenaces, par l'opposition persistante des chefs du judaïsme, par leurs arguments et leur mépris pour Jésus. Les apôtres ont tous quitté Jérusalem. Ces judéo-chrétiens avaient donc besoin d'être rassurés, encouragés et fortifiés dans leur foi par une évocation autorisée de la personne, de l'œuvre et de l'enseignement de Jésus. Il fallait leur montrer que ces miracles et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament en lui témoignent de sa messianité, combien son enseignement était supérieur à celui des scribes et des pharisiens. Deux aspects de sa vie étaient des points névralgiques pour les Juifs. Sa naissance, que l'on disait illégitime, et le scandale de sa mort sur la croix. C'est pourquoi Matthieu s'arrête davantage sur ces deux épisodes et montre que 6 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies par eux. Alors, j'ai mis, comme d'habitude, dans chacun des leçons qu'on prépare sur des livres en particulier, le plan du livre. Je mets toujours deux plans, le plan succinct. Le plan succinct, c'est un plan très, très résumé, mais ça peut vraiment aider quand vous lisez le livre et que vous voulez en faire une étude. Vous regardez le plan et vous regardez plusieurs choses qui sont intéressantes. Par exemple, prenez le plan succinct, prenez la ligne location. Vous avez l'action qui se passe à Bethléem et à Nazareth. Puis, vous avez toute une section du livre de 4 aller jusqu'à 16 et dépassé. L'action se passe en Galilée et l'autre, l'action se passe en Judée. Toutes c'est des affaires que quand on étudie un livre, si on prend ça en considération, il y a des choses importantes qui nous sont révélées par des plans comme ça. Alors, étudier un plan avant de commencer l'étude d'un livre, c'est toujours on en bénéficie toujours. J'ai mis aussi le plan détaillé, je ne veux pas juste vous lire ça. Dans le fond, le but de vous donner des notes comme ça, c'est que plus tard, si vous voulez étudier un livre ou regarder un petit peu ce que le livre dit, vous avez un plan, c'est que ça a été étudié avant nous, là. Plein de monde qui ont étudié ça. Alors, quand vous avez le plan en tête, avant de commencer la lecture, vous lisez le plan. Après ça, vous commencez la lecture, tout devient plus clair. Et ça, c'est un fait. Alors, je vous laisse le plan détaillé que vous pourrez réutiliser. Il est vraiment un peu plus long que les autres livres, là. Mais je vous laisse quand même. Vous avez toute la description de toutes les parties du livre et avec les versets. Alors, ça peut être très pratique. Donc, on arrive au point 5, qui est les particularités du livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu, après avoir insisté sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans la vie de Jésus et sur les enseignements du Seigneur, présente également certaines particularités. La première, le thème de la royauté et du royaume. Matthieu est l'évangile où il est question de la royauté et du royaume de Jésus. Dès le début, Jésus est présenté comme le fils de David de la maison royale de Juda. Les mages, lorsqu'ils vinrent à sa rencontre à l'époque de sa naissance, demandèrent où était né le roi des Juifs. Et tout au long de son ministère, nous voyons Jésus parler de son royaume. L'évangile de Matthieu mentionne souvent le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Enfin, juste une semaine avant sa crucifixion, Jésus entre à Jérusalem comme un roi, accomplissant ainsi la prophétie donnée à Zacharie 9:9. Même si les Juifs refusaient d'accepter la royauté de Jésus, d'autres la reconnaissaient. Ce fut le cas de la femme cananéenne qui, implorant Jésus au sujet de sa fille tourmentée, s'adresse à lui en le désignant de son titre royal « Fils de David ». Pilate, lui, fit placer ces mots au-dessus de la croix où mourut Jésus. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Donc, le thème de la royauté du royaume. Maintenant, la place des gentils, qui est un autre thème, particularité importante du livre de Matthieu. Matthieu, en parlant des gentils et en citant certains faits à leur sujet, montrait qu'il s'intéressait à ces gens. Il donne par exemple le nom de deux femmes païennes parmi les ancêtres de Jésus, Rahab et Ruth. Il parle des mages venus d'Orient pour adorer Jésus. Il rapporte les paroles de Jésus qui sera ôté aux Juifs pour être donné à ceux qui en produiront les fruits. Il termine aussi son évangile avec le grand commandement dans lequel Jésus ordonne à ceux qui le suivent de faire de toutes les nations des disciples. Parmi les quatre évangiles, Matthieu est le seul dans lequel apparaît le mot « église ». On trouve ce mot dans Matthieu 16:18, où il est cité une fois, et dans Matthieu 18:17, où il est mentionné deux fois. Troisième particularité, c'est les prophéties de l'Ancien Testament et les promesses de Dieu qui sont accomplies. L'évangile de Matthieu, plus que tous les autres évangiles, met le focus sur les prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies dans la personne et l'œuvre de Jésus. Il accomplit plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament. Alors, quelques applications qu'on peut mettre dans nos vies suite à cette très brève étude de l'Évangile de Matthieu, comme survol. Première application, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous commande d'étudier les Saintes Écritures. L'Évangile de Matthieu nous révèle que Jésus-Christ est un roi, est notre roi. Prenons du temps d'étude et de méditation pour enrichir notre connaissance de sa grandeur. On lit par exemple dans Jean, chapitre 5, verset 39, dans la version David Martin, « Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle, et ce sont elles qui portent témoignage de moi. » Deuxième application. Implorons le Seigneur de nous donner un plus grand amour de la Bible et une plus grande fidélité dans sa lecture, dans son écoute, dans son étude, dans sa mémorisation et dans sa méditation. C'est un secret de la croissance dans la vie chrétienne. Si on s'examine un peu nos manquements dans ces cinq devoirs que la Bible nous commande face aux Écritures, on se rend compte qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Troisième application, prions toujours avec ferveur pour que le Seigneur illumine notre compréhension de la glorieuse personne de Jésus-Christ. On va terminer par lire le passage d'Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Louons le Seigneur pour son don ineffable. Amen.